Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny. Dans ce magazine, nous parlerons encore largement de Benoît XVI, notamment de son pontificat avec un éclairage particulier sur son voyage en 2009 en Terre Sainte. Nous ferons écho à l'éditorial du père Federico Lombardi, le porte-parole du Vatican, qui ce samedi nous a encore fourni quelques informations en vue du conclave. Nous retrouverons aussi sœur Catherine Aubin et le dominicain Éric de Clermont-Tonnerre, qui dirige actuellement les éditions du CERF, avant le commentaire de l'évangile de ce troisième dimanche de carême avec le père Pascal Montavi. Les deux derniers jours du pontificat de Benoît XVI resteront certainement gravés dans la mémoire d'innombrables personnes et marqueront en tout cas une étape importante, nouvelle et inédite, de l'histoire de l'Église en chemin. Dans son éditorial de fin de semaine pour Radio Vatican, le père Lombardi ajoute que Benoît XVI nous invite à la prière et à la responsabilité. Thomas Chabol.
Appel à la responsabilité, tout d'abord les cardinaux évidemment, à qui incombe la responsabilité de l'élection du nouveau pape, mais également toute l'Église qui doit accompagner dans la prière leur discernement et devra accompagner le nouveau pape. Le nouveau pape pourra compter sur une grande aide spirituelle, à savoir la prière du pape émérite. Toute l'Église, fait remarquer le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège dans son éditorial hebdomadaire, devra accompagner par la prière le nouveau pape dans sa tâche d'annoncer efficacement l'Évangile et guider la communauté vers une fidélité toujours plus grande à l'évangile du Christ. Parce qu'un pape ne peut le faire tout seul, a tenu à souligner le père Lombardi, et le pape émérite continuera à nous accompagner en travaillant à cela, comme il nous l'a dit lors de ses dernières prises de parole publiques, avec tout son cœur, son amour, sa prière, sa réflexion. Et le père Lombardi déclare encore « Si Jean-Paul II nous a offert un témoignage courageux dans la souffrance et la maladie, Benoît XVI, lui, nous offre un témoignage tout aussi courageux d'acceptation de devant Dieu des limites de la vieillesse et du discernement sur l'exercice de la responsabilité que Dieu lui avait confiée. Tous deux, souligne le père Lombardi, nous ont enseigné, non seulement avec leur magistère, mais également, et peut-être plus efficacement encore par leur vie, ce que veut dire chercher et trouver chaque jour la volonté de Dieu, même dans les situations les plus cruciales de l'existence humaine. La renonciation du pape n'est en aucun cas un abandon, insiste encore le père Lombardi, ni de la mission reçue, ni même des fidèles. Avec humilité et sérénité, Benoît XVI affirme avoir cherché à faire tout ce qui est possible pour servir le bien de l'Église, une Église qui n'est pas la sienne, mais de Dieu, et qui par l'œuvre continue du Saint-Esprit vit, grandit et se réveille dans les âmes.
Le père Lombardi, qui ce samedi midi a tenu un nouveau point de presse, il a tenu à préciser qu'il n'avait pas un chiffre exact à nous donner quant au nombre de cardinaux déjà présents à Rome pour le conclave, mais partant du fait que 75 résident à Rome de manière permanente et que 66 autres non-résidents ont fait connaître leur lieu de résidence pour leur permanence dans la capitale italienne, on peut arriver au chiffre de 141 cardinaux présents, électeurs et non-électeurs confondus. Mais l'on peut imaginer, a souligné le père Lombardi, que lundi, pour la première congrégation générale, nous n'ayons pas encore un nombre précis des cardinaux parce que certains d'entre eux arriveront après le 4 mars. Lundi aussi, on pourra voir qu'il manque certains des cardinaux non-électeurs absents pour raison de santé. Autre information, dans la chapelle Sixtine, où se déroulera le conclave, les travaux n'ont pas encore débuté et les visites des touristes sont toujours autorisées, du moins jusque lundi. Le père Lombardi a précisé aussi que la secrétaire d'État avait remis les sceaux du pape à la chambre apostolique pour qu'ils puissent être annulés. Ils ne seront pas détruits mais rendus inutilisables, griffés d'une croix, comme ce fut le cas en 2005 pour Jean-Paul II. Comme annoncé il y a quelques jours déjà, l'anneau du pécheur ne sera pas détruit mais altéré. Le père Lombardi précise aussi que dans la basilique Saint-Pierre, tous les soirs, avant la messe, des prières spécifiques sont récitées pour le collège des cardinaux et pour l'élection du nouveau pontife. Il a ainsi tenu à ajouter qu'au Mexique, trois religieuses contemplatives prient de manière permanente pour l'Église et pour l'élection du pape. « Le père Federico Lombardi, toujours, ces derniers jours, avait plusieurs fois évoqué les nombreux messages arrivés au Vatican pour Benoît XVI du monde entier, des hommages de gens simples et de personnalités. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui de Genève a redit toute sa gratitude à Benoît XVI pour sa leadership spirituelle. Vendredi, Ban Ki-moon a rappelé qu'il avait écrit même à Benoît XVI.
We are very much grateful for his spiritual guidance and leadership.
Je lui ai écrit pour lui dire que j'avais apprécié et respecté profondément son engagement pour le dialogue interreligieux et en faveur de la lutte contre la faim et la pauvreté, ainsi que pour la promotion des droits de l'homme et de la paix.
To interfaith dialogue and to addressing such global challenges as the alleviation of poverty and hunger, as well as promotion of.
Je lui ai dit que j'espérais que la sagesse dont il a fait preuve durant son pontificat puisse demeurer comme un héritage qui inspire le dialogue et la tolérance.
His pontificate may stand as a legacy on which to build further dialogue and tolerance, so that we all will be able to live in a world of peace and harmony.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Si l'on se penche, comme on le fait depuis quelques jours, sur le pontificat de Benoît XVI, on peut aborder le dialogue avec les Juifs, une question on ne peut plus délicate, surtout pour un pape venu d'Allemagne. Il y eut bien sûr l'épisode malheureux Williamson, mais la sincérité des gestes du pape en visitant diverses synagogues, priant au mur d'élémentation et visitant Auschwitz, ainsi que de nombreuses prises de parole auront convaincu. Le père jésuite David Neos est le vicaire du patriarche de Jérusalem des Latins pour la pastorale des catholiques de langue hébraïque. Il nous dit quels furent les rapport du voyage apostolique de Benoît XVI en Terre Sainte en septembre 2009.
C'était un moment grandiose avec Jean-Paul II, hein, de passer de lieu en lieu et de tisser des ponts d'un camp de réfugiés à Yad Vashem, du grand rabbinat au chef musulman. Et en cela, il a tissé une image de ce que peut être ce pays et Benoît XVI n'a rien ajouté. Le moment fort de la visite de Benoît XVI est qu'il a mis des paroles claires sur ses actes. Il nous a donné un enseignement magistral sur notre vocation en tant que chrétiens dans cette terre déchirée. Et cet enseignement magistral a mis des paroles sur les actes symboliques de Jean-Paul II. Dans les paroles de Benoît XVI, il y avait une appréciation du profondeur de l'appel et de la vocation des chrétiens en Terre Sainte. Il est venu en tant que notre pasteur, nous l'avons senti très fortement. Chaque discours nous donne une profondeur de réflexion sur quelle est la valeur de notre présence ici, quelle est notre vocation prophétique dans cette terre déchirée, quel rôle à nous à remplir. Et je pense que là, il a touché au fond de notre vocation. C'est la vocation de mettre des paroles sur notre réalité, des paroles qui préparent pour le demain. Le courage a été bien évident. Il a parfois dit des choses qui ont été difficiles pour nos frères et nos sœurs musulmans d'entendre, pour nos frères et nos sœurs juifs d'entendre. Mais il les a dit. Et il a dit en toute humilité, pour que nous puissions remplir notre vocation prophétique.
Vous voulez me donner juste un exemple qui vous a, pour vous, dans votre vie personnelle, plus peut-être accompagné ou porté?
C'est-à-dire, je peux donner quelques exemples, hein, parce que les exemples vont ensemble, ils forment une symphonie. Un moment très fort sur Mont Nebo, quand il parle de notre rapport avec l'Ancien Testament et le peuple juif. Il le dit à Mont Nebo, au cœur du monde arabe, difficile à entendre à cause de la guerre entre les Juifs et les Arabes, entre les Israéliens et le monde arabe, mais il le dit très clairement, il le souligne. C'est un moment prophétique de dire la vérité, même quand la vérité n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse diplomatique, mais qui est la vérité de notre vocation. Un autre moment très fort, à l'aéroport, quand il se met entre le président de l'État d'Israël et le premier ministre, et il dit « la chose la plus triste que j'ai vue ici, c'est le mur ». Encore une fois, du point de vue de la sagesse de ce monde, une chose idiote à dire, hein, c'est pas le moment. Non, c'est justement le moment de le dire. Okay, nous sommes ici pour construire des ponts et pas des murs. Un autre moment à Yad Vashem, de mettre des paroles fortes, hein, sur notre méditation chrétienne, sur la souffrance du peuple juif, mais aussi au camp de réfugiés de Haïda, hein, de parler de la souffrance du peuple palestinien. Ces moments nous donne tout un vocabulaire et il nous montre le rôle qui est le nôtre à jouer pour être des ponts qui disent toujours la vérité, qui montrent l'injustice, qui montrent les problèmes, qui touchent les souffrances, mais en vérité, nous proclamons celui qui est notre paix ici, hein, Jésus, qui détruit les murs et qui forme des deux un.
C'était le père jésuite David Neos, vicaire du patriarche de Jérusalem des Latins pour la pastorale des catholiques de langue hébraïque. Et retrouvons, comme chaque fin de semaine, Catherine Aubin et ses livres pour Dieu, avec une petite nuance aujourd'hui, à savoir que ce n'est pas l'auteur d'un livre qui nous est présenté, mais le directeur d'une maison d'édition, le frère Éric de Clermont-Tonnerre, qui dirige actuellement les éditions du Cerf. Il est dominicain et a reçu l'habit de l'ordre des prêcheurs en 1978. Il a été prieur provincial de la province dominicaine de France de 1992 à 2001 et président de la Conférence des supérieurs majeurs de France de 1995 à 2001. Interrogé par Catherine Aubin, le frère Éric nous parle des livres publiés par les éditions du Cerf de Joseph Ratzinger, puis du pape Benoît XVI. Il nous raconte aussi deux grandes rencontres importantes qui manifestent l'attention du pape pour le travail des éditeurs.
Éric de Clermont-Tonnerre, vous êtes l'actuel directeur des éditions du Cerf. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous éditez Benoît XVI ?
Depuis 1962, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, avant le Concile, et nous avons publié son premier ouvrage ici aux éditions du Cerf, qui s'appelle « Frères dans le Christ ».
Quels ont été vos choix éditoriaux, au-delà du fait que Benoît XVI soit pape, voire aussi préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi ?
Joseph Ratzinger s'est imposé comme un des auteurs du XXe siècle les plus importants. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas été amené à développer des critères. Nous avons considéré à l'époque qu'en 62, il était déjà un auteur important. Et tout de suite après le Concile, le père Congar l'a fait travailler pour sa collection Unam Sanctam, qu'il a dirigée pendant des années, pour expliquer dans cette collection, pour participer à l'explication du Concile. Donc, si vous voulez, cet auteur s'est imposé par la qualité de son travail théologique et de son écriture.
Vous dites, Éric de Clermont-Tonnerre, que vous avez donc commencé en 1962. Vous pouvez nous refaire un peu l'historique de toutes ces éditions de Joseph Ratzinger ?
On a en 62 Frères dans le Christ, hein, et puis on a également un ouvrage très important du cardinal Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est un de ses ouvrages les plus importants. C'est une édition qui date de 69 et pour lequel le cardinal Ratzinger a fait une nouvelle introduction pour l'an 2000. Et donc nous l'avons réédité avec cette nouvelle introduction en l'an 2005 pour nous. Et c'est un ouvrage de référence sur la foi, que c'est un des meilleurs exposés sur la foi.
Qu'est-ce que vous avez publié de Benoît XVI ?
On a publié essentiellement ses encycliques et exhortations apostoliques. Ce que nous avons édité également de Benoît XVI, c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès en France, c'est le sel de la terre. Et là, nous avions fait une coédition avec les éditions Flammarion, de telle sorte que la pensée du cardinal Joseph Ratzinger soit connue aussi dans le grand public français.
Éric de Clermont-Tonnerre, vous êtes dominicain, vous êtes éditeur, mais vous êtes aussi lecteur. Et donc, vous avez lu les ouvrages de Joseph Ratzinger et de Benoît XVI. Est-ce qu'on peut vous demander votre avis en tant que lecteur ?
J'ai toujours préféré les ouvrages du cardinal Ratzinger aux exhortations apostoliques et aux encycliques. J'ai bien aimé les encycliques. Mais comme j'aime beaucoup plus le Joseph Ratzinger théologien, je suis très spontanément porté à lire ses ouvrages de théologie parce que là, j'ai l'impression qu'il a une parole qui n'est pas contrôlée par le fait d'avoir été pape, mais qui est vraiment tout à fait libre. C'est le théologien qui exprime tout à fait sa pensée et le fond de sa pensée.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, nous sommes très fiers aux éditions du Cerf parce que le pape Benoît XVI connaissait très bien les éditions du Cerf. Et vous savez que quand il est venu à Paris et qu'il a fait un discours au monde de la culture, il a cité un ouvrage du Cerf, « L'amour des lettres et le désir de Dieu » de Don Jean Leclerc. C'est une initiation aux auteurs monastiques du Moyen-Âge. Et bien rien que ce titre, « L'amour des lettres et le désir de Dieu », c'est Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et puis j'ajouterai une chose, c'est que j'ai eu la joie d'avoir pu pu rencontrer Benoît XVI en audience privée avec les pères jésuites des sources chrétiennes. Nous sommes allés en 2006 lui remettre le 500e volume de la collection des sources chrétiennes. Et Benoît XVI connaissait très bien cette collection, en avait lu de nombreux ouvrages, et ça a été merveilleux de rencontrer un pape qui tout de suite a compris ce que nous lui apportions et le travail que nous faisions.
Et place à présent au commentaire de l'évangile de ce dimanche 3 mars, troisième dimanche du temps de carême, évangile selon saint Luc 13:1-9. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Écoutez le commentaire du père Pascal Montavi.
L'évangile de ce troisième dimanche de carême est surprenant. Deux passages se succèdent et le lien qui les unit ne semble pas évident. Le premier évoque les drames qui surviennent à l'improviste dans notre vie et le second affirme l'importance de porter du fruit. Voyons comment ces deux enseignements forment une unité qui nous permet de mieux comprendre le chemin que Jésus nous propose. Jésus évoque tout d'abord deux événements douloureux qui ont marqué récemment ses auditeurs. Pilate a fait massacrer des Galiléens pendant qu'ils offraient un sacrifice. Et la chute de la tour de Siloé a provoqué la mort de 18 personnes. Le premier drame se situe en Galilée, au nord, et est provoqué par la cruauté d'un homme. Le second se déroule à Jérusalem, au sud, et se présente comme accidentel. Par ces deux exemples, Jésus montre que les malheurs peuvent arriver n'importe où. Jérusalem, ville sainte, n'est pas mieux protégée que la Galilée. De plus, ces tragédies peuvent être provoquées par les hommes, ou accidentelle. L'affirmation essentielle de Jésus est qu'aucune victime de ces catastrophes n'est plus coupable que ceux qui y ont échappé. Par ces paroles, Jésus chasse de nos cœurs toute croyance en un Dieu vengeur qui punit sa création lorsque sa colère atteint son paroxysme. Celui qui est frappé par un malheur n'est pas plus coupable que celui qui prospère. Mais alors, pourquoi de tels événements? Quel sens ont-ils? Pour nous chrétiens, le mal physique, engendré par la nature, comme par exemple les séismes ou encore la maladie, tout comme le mal moral, lorsqu'un homme choisit délibérément d'agir de manière mauvaise, sont les conséquences du péché originel. En refusant d'obéir à Dieu, l'homme crée un désordre dans la nature, un désordre qui a des répercussions jusqu'à nos jours. Mais ces drames, mystérieusement, peuvent aussi permettre à l'homme de se tourner vers Dieu. Saint Paul dira « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ainsi, ces événements douloureux ont parfois l'effet d'un réveil qui conduit l'homme à se poser les vraies questions. Pour souligner cette dimension, Jésus conclut la présentation de ces deux drames de la même manière. « Eh bien, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Les événements douloureux de notre vie résonnent donc comme un appel à la conversion. Ils nous font toucher les limites de notre existence, la détresse, la souffrance, la mort. Ils nous disent « La vie ne s'arrête pas là, il y a quelque chose de plus grand à venir, c'est là que peut commencer un chemin de conversion. » Cette parole dure de Jésus, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux, trouve un écho dans le passage suivant. Jésus souhaite couper le figuier qui est demeuré stérile pendant 3 ans. Cette parabole rappelle qu'après le temps de la miséricorde viendra un jour où le jugement sera inéluctable. Par cette image, Jésus insiste sur l'importance de la conversion qui est déjà l'objet du passage précédent. Il précise maintenant que cette conversion doit se manifester par les fruits qu'elle porte. La grâce du salut est gratuite. Nul homme ne la mérite. Elle nous est acquise par Jésus sur la croix. Mais cette grâce reçue est appelée à se multiplier par la bonne volonté de l'homme et les actes de charité, de foi et d'espérance qu'il pose. En ce temps de carême, cet évangile nous rappelle l'importance de nous engager au nom de notre foi à devenir un disciple toujours plus authentique de notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, nous sommes au terme de ce magazine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur internet www.radiovaticana.va, sur Facebook également en cherchant Radio Vatican en français, et sans oublier les applis en français de Radio Vatican sur les téléphones portables. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.